Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute!
Merci à mon hébergeur Acaz de me prêter son studio pour cet enregistrement. Un jour, j'ai lu « Sans alcool » de Claire Touzard et j'ai repensé à toutes les dates que j'avais faites en me sentant plus proche de la bouteille de vin à côté de moi que de la personne qui était en face de moi. Un jour, j'ai lu « Féminin » encore de Claire Touzard et j'ai repensé à mes 2 ans en tant que journaliste dans un supplément luxe d'un quotidien économique. Alors maintenant, c'est plus « Et un jour », mais dès que je lis le magazine « Elle », c'est-à-dire chaque semaine car je suis abonnée, je pense à elle, à Claire. Et puis la semaine dernière, un supplément accompagne le magazine. C'est un spécial belle peau, quelque chose dans le genre. Je vais me coucher en me disant, ce sera parfait pour m'endormir. Alors ça commence mal parce que je suis déjà agacée par la couverture. Une fille de 16 ans, 18 ans, max, saute en l'air, en bas de maillot, morte de rire. Elle est évidemment canon, blanche, mince, jolie et très jeune. La peau de ses jambes est lisse et bronzée, on dirait celle de ma fille de 8 ans. Et non, je n'exagère pas. Et puis je feuillette et je réalise rapidement que 90% des produits des pages shopping sont d'une seule marque. Et puis il y a une interview d'un mec, et assez étrange, le monsieur a le même nom que celui de la marque dont je soupçonne le magazine de parler. Alors évidemment, je regarde la couve de ce pseudo-supplément et je regarde s'il est marqué que c'est un publi-reportage pour un client qui avait grave de budget. Mais pas une seule fois, il est mentionné que ce supplément est une collab avec la marque. Alors je suis outrée qu'on me prenne pour un jambon, j'ai perdu 5 minutes de mon temps précieux à survoler un public communiqué qu'on a essayé de me refourguer comme si c'était un magazine. Mais heureusement, aujourd'hui, Claire Touzard est devant moi. Salut Claire.
Salut. Belle intro.
Ouais, je sais pas si c'est une belle intro, mais oui, ça m'a vraiment marquée et c'est quelque chose. J'ai été déjà sensible avant, mais après avoir lu Féminin, je le suis encore plus. Je suis hyper contente que tu sois au micro de Genre de fille. Merci d'être là.
Mais pareil.
Alors, j'ai fait évidemment des petites recherches sur toi. Alors, même si aujourd'hui, on pourrait dire que tu es autrice, tu as été réalisatrice d'émissions télé sur la mode, la culture ou la musique à Canal Plus ou à France Télévisions. Tu as été journaliste, tu as travaillé aussi pour Libé.
Ouais, j'étais reporter. Ouais. Enfin, pour différents journaux. En fait, j'étais pigiste aussi.
Tu as été rédac en chef de l'émission La mode, la mode, la mode sur Paris Première. Tu as été rédactrice en chef du magazine Grazia jusqu'en 2019.
Grazia Homme, ouais.
Grazia
Homme. Et j'étais aussi chroniqueuse féministe.
D'accord.
Et genre et société là-bas. Ouais.
D'accord. Et aujourd'hui, tu fais encore un peu de journalisme ou tu es plutôt uniquement.
Non, je me suis tournée vers la fiction, donc j'ai écrit des livres et puis aussi je suis scénariste. Nouvellement,
d'accord.
Ouais. Je développe des projets de séries.
D'accord. Et ça, c'est récent le fait d'être scénariste ou tu l'as toujours été ?
Non, c'est récent en fait. D'accord. Mais comme j'étais réalisatrice, du coup, j'ai un rapport à l'image assez fort et j'avais envie de passer au-delà du documentaire et de faire vraiment d'utiliser en fait tous les outils du journalisme, toutes les thématiques que j'avais pour faire de la fiction en fait.
Alors moi j'ai lu comme je l'ai dit en intro Sans alcool et féminin, j'ai adoré ces 2 livres. Donc déjà je te le dis, bravo,
merci.
M'a beaucoup touchée, on va en parler un peu plus en détail pendant notre échange. Dans Sans alcool, le jour où j'ai arrêté de boire, tu faisais alors le récit de ton addiction et ton combat pour t'en libérer. Donc, Sans alcool est plus ancien que Féminin. Et dans Féminin, donc j'explique pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment une plongée dans l'univers d'un journal féminin. C'est l'histoire de Frankie, une journaliste ambitieuse et pleine d'idéaux qui navigue vraiment dans ce magazine. Donc, ça parle aussi de hashtag MeToo. Le roman questionne la place du féminisme. Tu parles aussi de domination masculine, de capitalisme et d'emprise. Donc oui, j'ai adoré ces 2 livres. Et on peut vraiment dire que tu sais mettre les pieds dans le plat. C'est quand même des sujets... Moi, je n'avais jamais lu de livre comme Sans alcool avant et je n'avais jamais lu de livre comme Féminin. Donc, c'est quand même des sujets où tu te dis... On ne se dit pas forcément que c'est des sujets tabous, mais en fait, en les lisant, on se dit que si, il y a quand même un vrai... Les personnes n'ont pas tant écrit sur ces sujets jusqu'à maintenant. Sans alcool est plus ancien que Féminin. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours sur ce livre et est-ce que tu en as encore ?
Alors oui, sans alcool, c'était un raz-de-marée un peu inattendu pour moi parce que ouais. Je l'ai écrit dans une période un peu particulière. Il est sorti juste après le confinement et en fait, je sais pas, il a tout de suite ça a pris en fait ouais. Et c'était assez fou quoi. C'est-à-dire que je recevais environ 10 messages par jour et encore aujourd'hui, il continue à vivre.
Ouais.
Il y a d'autres livres, des podcasts, etc., qui sont créés autour du sujet de la sobriété. Et je trouve ça super. Donc, je suis toujours appelée, invitée, j'ai des messages. On voit que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes à travers les générations. Et c'est vrai que même s'il y avait eu, je pense, des essais dessus, le témoignage, du coup, a fait que beaucoup de gens se sont identifiés. Surtout que j'ai essayé voilà, d'y apporter un regard un peu plus politique que le simple regard, enfin, qui n'est pas que simple d'ailleurs, sur la santé mentale, etc. Un peu ambiance bien-être, etc. Là, il y avait vraiment une question politique derrière et je pense que les gens se sont sentis touchés par ça.
Et tu penses que c'est lié aussi au fait que pendant le confinement, on pouvait avoir tendance ? En tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais chez mes beaux-parents à boire du rosé tous les jours. Est-ce que les gens ont plus bu en fait, pendant le confinement ?
Ah bah c'est sûr que je pense qu'il est arrivé, il est sorti à un point nommé parce que on sortait de confinement et je pense que beaucoup de gens ont été enfermés avec leurs bouteilles en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que du moment où on sort dehors, on fait pas vraiment attention à sa consommation parce qu'on est dans une sorte d'effusion, on est avec du monde, c'est à l'air libre, en boîte, etc. Mais en fait là tout d'un coup, on a commencé à boire seul face à sa télé, boire seul avec ses enfants. Et en fait, je pense que ça a été pour beaucoup de gens une sorte de déclic aussi. C'est-à-dire qu'on a vu que ça a généré aussi pas mal de violences, même intrafamiliales, etc. Les gens étaient échaudés par la situation et buvaient pour oublier. Et tout ça a fait que quand le livre est sorti, je pense que c'était vraiment un moment assez particulier où tout le monde questionnait sa consommation.
Et quand les personnes t'envoient des messages, c'est quoi ? C'est pour te demander des conseils ? C'est pour te remercier ? Et comment tu réagis, toi ?
Il y a des femmes qui ont trouvé un regard féministe sur la question. Il y a des gens qui y ont vu la destruction, le rapport à l'addiction. Donc, je pense que chacun y a pris ce qu'il a voulu. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment de tous les âges et toutes les générations des messages. Certains pour me dire, voilà, ma mère s'est détruite avec l'alcool. Merci d'en parler, de lever ce tabou. Des femmes m'ont dit merci d'avoir identifié le rapport entre alcool et féminisme, etc. Et je pense que c'était chacun y a trouvé... un peu ce qu'il voulait, en fait. Et c'est ça qui a été assez fort pour moi, en fait, de recevoir tous ces messages. Parfois, j'ai dû faire un peu la thérapeute, etc. Je ne m'attendais pas. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il fallait briser ce tabou. Et je pense que ce que les gens ont aimé, c'est que j'ai dit pour la première fois, être alcoolique, avoir des problèmes d'alcool, c'est pas quelque chose qui ne se passe que dans une certaine classe de population, déjà. C'est pas le type qui est au PMU du coin. Ça peut être nous, en fait.
Mais complètement. Le fait que ce soit toi, en plus, qui soit une jeune femme qui bossait dans un milieu qu'on pourrait qualifier de glamour. En plus, tu le dis que moi, physiquement, tu portais pas le fait d'avoir une addiction à l'alcool.
Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau peau, etc., j'ai eu de la chance, plus ou moins, jusqu'à présent. Mais en fait, on a toujours l'image de l'alcoolique avec la fraise au milieu du nez, etc. Et en fait, j'ai identifié que l'alcool pouvait être très nocif dans des vies qui étaient considérées comme mondaines, festives, etc., ce qui était mon cas, et quelle que soit votre typologie, en fait. Et donc, je pense que, du coup, beaucoup de gens... parce qu'en fait, on était très permissifs avec l'alcool, comme c'était toujours « oui, mais c'est génial », et on rigolait de nos gueules de bois, etc. Les gens se disaient « bah écoute, c'est pas comme tout le monde le fait, c'est pas grave ». Et même si ça détruisait leur vie, si ça avait des incidences hyper toxiques, ils n'arrivaient pas à l'identifier, en fait. Et moi, j'ai mis du temps à l'identifier, et quand je l'ai fait, ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses que j'ai eu envie de le partager, en fait. Et je pense que les gens ont commencé à se dire « mais en fait, si rien ne va, peut-être que ça a un rapport aussi avec ma consommation ». Pas que, évidemment, en général, la consommation étant une raison qui cache d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'avoir mis le doigt sur un alcool qui était considéré comme plus social et mondain, c'est ça qui a vraiment changé les choses.
Moi, ce qui m'a marqué aussi dans le livre et que j'ai trouvé passionnant, c'est le rapport avec l'amour, l'amour avec ou sans alcool. Et tu dis, la vision de l'amour est faussée sous alcool. T'expliques d'ailleurs que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, c'est aussi le premier que t'as connu sobre. Toutes les précédentes rencontres, d'un soir ou histoire longue durée, se sont faites alcoolisées. À un moment, tu dis, est-ce que j'aurais aimé ces personnes sans alcool ? Tu t'interroges. Et dans un article, tu dis, on sort avec des personnes parce qu'on est désinhibé, mais est-ce qu'on sortirait avec elles si on n'était pas ?
Oui, c'est le rapport. De toute façon, c'est une ficelle qu'on tire, l'alcool, c'est-à-dire que ça interroge notre rapport à beaucoup de choses. C'est-à-dire, en fait, pourquoi on a besoin de se cacher ? Pourquoi on a besoin d'ensevelir ? Pourquoi on a besoin de mettre des filtres pour certaines situations de nos vies ? Et quand on commence à se poser la question, ça montre qu'on a un rapport très complexe à beaucoup de choses. Et en fait, c'est assez percutant, en fait. Pour moi, ça a été assez bouleversant. Par exemple, je me suis demandé pourquoi, en fait, quand j'étais célibataire, pourquoi quand j'allais à des dates, j'étais tout le temps bourrée, en fait.
Ouais.
Comme si j'avais peur de l'autre. Et comme si j'étais prête aussi à avoir le pire. Arrêter l'alcool, c'était une sorte de philosophie où je me suis dit, en fait, je vais être obligée de vivre la vie sans filtre, donc il va falloir que ce soit mieux. Et donc, dans le rapport à l'amour aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je buvais pour me dire que, en fait, si un type se comportait mal avec moi, c'était OK. En fait, quelque part, c'était pour, c'était un peu la théorie du pire. Et tout d'un coup, devoir aimer quelqu'un sobre, c'était forcément être avec quelqu'un de bien. Et j'ai rencontré Alex. Je comptais pas forcément être en couple, pas forcément avec un homme. Et en fait, tout d'un coup, son histoire a un peu percuté la mienne, dans le sens où on s'est retrouvés au-delà des genres, au-delà de plein de choses, sur des histoires un peu cabossées communes. Ouais. Et je pense que ça a été vraiment une super belle histoire, quoi. Et aujourd'hui, au quotidien, je vois que sobre, je peux tout faire avec lui. Ça n'empêche pas que c'est compliqué. Par exemple, il a fallu réapprendre à faire l'amour, par exemple.
Ouais.
La sexualité, on l'apprend beaucoup à travers l'alcool. Et moi, j'ai découvert que j'étais un peu prude, en fait, alors que je m'imaginais hyper aventureuse.
Ouais.
Et c'était quelque chose d'assez touchant et d'assez dur, en fait. Et donc, il a fallu, réapprendre. C'était beau et ça a donné au sexe et à l'amour quelque chose encore de plus lumineux et puissant, en fait.
Et en plus, Alex, ton compagnon, il est lui aussi, il a une addiction, si je me souviens bien dans le livre, il a une addiction à l'alcool avant. Donc toi, quand tu le rencontres, il était sobre, il buvait plus d'alcool.
Tout à fait. En fait, moi, je me posais déjà des questions. Et puis, en plus, j'avais plein de problèmes physiques liés à l'alcool. Ouais. J'avais des problèmes de gastrite. J'arrivais quasiment plus à boire l'alcool, comme si mon foie n'en pouvait plus. Donc, je me posais beaucoup de questions. J'avais déjà arrêté la cigarette après avoir quand même fumé genre 2 paquets par jour pendant 20 ans.
T'avais quand même réussi à arrêter l'alcool.
Ouais. Et donc, je me posais beaucoup de questions et je commençais à identifier comme ça. Et en fait, quand je l'ai rencontré, ce qui était drôle, c'est que pour la première fois, il y avait quelqu'un qui me disait qu'il était sobre. Donc, il avait arrêté de boire de façon très cool et décontractée. Et il était très drôle.
Ouais.
Et je me disais, mais c'est génial, en fait. C'est
quelqu'un
pas,
peut être fun sans avoir...
Ouais, en fait, ouais. On avait tellement associé l'alcool à l'humour, au côté rock'n'roll, à tout un tas de choses, qu'avoir quelqu'un qui incarnait ça, mais qui ne buvait pas, en fait, était un peu fou. C'est dingue, quand même, de se dire ça, mais et donc on s'est rencontrés à un moment où moi je voulais arrêter aussi pour moi, et quelque part ça m'a aidé d'être avec quelqu'un qui m'a montré que c'était possible.
Et aujourd'hui, quand tu vois des copines ou des copains, si eux boivent de l'alcool, toi tu prends un truc sans alcool?
Oui, bien sûr.
Ouais. C'est pas trop dur?
C'est dur pour eux surtout.
Ouais,
en fait, parce que l'alcool, en fait, cette question sur l'alcool, elle est un peu subversive, on s'en rend compte.
Ouais,
et c'est ça qui est un peu délirant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui est subversif, c'est de boire, mais en fait c'est de ne pas boire, puisque boire est une norme massive, en fait. Et je critique pas les gens qui boivent, par ailleurs chacun trouve son compte, et c'est super. Moi, je suis contente si les gens arrivent à approcher l'ivresse avec une modération et avec joie, tant mieux, en fait. J'ai besoin de trouver une voie pour moi, parce que j'ai un rapport différent à l'alcool. J'ai un rapport autodestructeur à l'alcool, et en fait c'est important que chacun puisse traquer ensemble en se tolérant les uns les autres. Et c'est ça qui a été peut-être un peu dur à des moments, c'est que autant il y a des gens qui ont été très tolérants, qu'ils boivent ou non, autant d'autres, j'ai vu que si je ne faisais pas partie de la fête avec eux et que je leur renvoyais c'est comme si je leur renvoyais un miroir, c'était compliqué, en fait. Et donc, ça a été beaucoup de conversations autour de ça.
Ouais.
Parce que finalement, dans l'arrêt de l'alcool, beaucoup de gens voient un jugement dans leur propre...
Ils ont l'impression de se sentir jugés.
C'est sûr que quand quelqu'un arrête quelque chose face à vous, tout d'un coup, ça interroge pourquoi nous on le fait.
Ou ton rapport, toi.
Et quand on a un rapport assez sain à ça, c'est OK. Mais quand on a un rapport très ambigu à ça, tout d'un coup, ça déterre des choses qu'on n'a pas envie de voir. Surtout qu'on boit en général pour oublier. Donc, si quelqu'un est là pour vous rappeler que peut-être vous avez un problème, c'est problématique. C'est pas grave. Et puis, même si j'ai pu m'éloigner de certaines personnes, c'est pas grave. Je les juge pas. Et je pense que peut-être que aussi nos amitiés étaient très... formés autour de l'alcool, parce qu'il y a beaucoup d'amitiés qui aussi, c'est un peu les amitiés de bar, quoi, comme j'appelle ça. Et on s'en rend pas compte parce qu'on se sent très proche des gens, mais en fait, on est là pour boire, pour cracher sur la société. C'est une sorte de philosophie, un peu, la philosophie de comptoir. Et c'est pas péjoratif. Quelque part, ça manque parfois. Mais moi, j'en suis plus là, parce que je peux pas aussi, au-delà de je veux pas, et ça a changé ma philosophie de vie.
Il y a aussi quelque chose qui m'a... Tu parlais de personnes qui t'avaient dit merci d'avoir traité... l'alcoolisme sous l'angle du féminisme. Moi, c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement, et t'en parles très bien, c'est l'alcool, ça remet aussi en cause la question du consentement et le fait qu'il y a une vulnérabilité accrue. Pareil, moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose qui disait, en gros, et d'autant plus quand t'es une femme, c'est se poser la question de toutes les relations que t'as pu avoir avant. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, et de me dire, si j'avais pas bu, est-ce que j'aurais couché avec ces personnes-là, tu vois ? Ça me fait penser, alors je sais que toi, t'as une belle fille qui est peut-être ado ou peut-être pas encore.
Ouais, ouais, elle a 11 ans.
Pour avoir eu des discussions avec des copains en disant plus tard, est-ce qu'on a peur que nos enfants se droguent et tout, j'étais une des seules à dire, moi, ce qui me fait peur, c'est plutôt l'alcool. Parce qu'en tant que femme, l'alcool te rend vulnérable et te donne une espèce de... Ça dépend de des personnes, ça peut être, si t'es trop bu, ça peut être une léthargie, mais en gros, c'est, voilà, pour moi, il y a vraiment la question du consentement. On n'en parle pas assez par rapport à ça.
Bah, en fait, c'est vrai que je pense que ce qu'il faut, c'est pas tant que les femmes s'arrêtent de boire, mais que les hommes soient éduqués
aussi,
à ne pas les agresser, en
fait.
Mais c'est parce qu'en fait, elle devrait avoir le droit de boire librement.
Oui, oui.
Et encore une fois, je suis pas du tout contre l'ivresse. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, évidemment, moi, en buvant, je me suis mis dans énormément de situations de danger. Mais aussi parce que j'avais un rapport très autodestructeur à l'alcool. Et donc, je me suis retrouvée en blackout. Je raconte dans le livre qu'un jour, je me suis réveillée quand même à Berlin, dans une caravane, dans le lit de quelqu'un que je ne connaissais pas. Enfin, des choses
mais
qui...
Mais habillée, tu dis. Tu
habillée, ouais. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne saurais jamais.
Dis,
ou peut-être qu'un jour, ça
que
m'explosera au visage. Mais en tout cas, oui, ça m'a mis dans plein de situations très dangereuses. Puisque, évidemment, tant que le patriarcat est encore là et qu'on n'a pas éduqué les hommes à ne pas tirer profit des femmes, en fait, évidemment, ça vous met en danger. Alors que c'est toujours le problème. C'est comme la jupe courte. L'idée n'est pas d'interdire l'alcool pour les femmes, mais c'est vrai que c'est toujours assez flippant de se dire que on n'est pas dans un plan consentement quand on boit. Et c'est ce que je racontais tout à l'heure avec l'amour, c'est que quelque part j'ai l'impression que parfois je me disais tiens je vais me taper un mec en soirée, mais en fait il fallait que je boive à fond pour ça. Mais en fait au final la relation était pourrie. Je sais même pas si j'ai consenti aux choses qu'on a faites. Enfin, c'est clair que ça, tout de suite, ça vous met dans quelque chose qui peut être très vite nocif, en fait. Donc, il faut le savoir. Et je pense que l'idée est d'aborder l'amour au-delà d'essayer de décorréler l'amour, le sexe de l'alcool. Et de faire très attention en soirée. D'ailleurs, il y a beaucoup aujourd'hui d'associations qui se sont créées comme Consenti, etc., qui créent des espaces safe pour les femmes et qui questionnent aussi la place de l'alcool dans les violences hommes-femmes, puisqu'il est très fort et que personne n'en parle.
Ouais, c'est ça.
Non, mais franchement, c'est un tabou. Même on a vu des Grenelles pour les violences conjugales où l'alcool n'avait absolument pas sa place dans les conversations. Ça, c'est encore le truc des lobbies, etc. Mais,
tu veux dire les lobbies, en gros, d'alcool
alcooliers, je ne sais pas, parce que c'était mené par le gouvernement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on associe très peu l'alcool aux problèmes de violence sexuelle, etc. Alors que je ne dis pas que l'alcool fait le violeur, mais il accélère des problématiques déjà présentes et que c'est une vraie question, quoi. Et à l'inverse, on culpabilise les femmes. C'est-à-dire que si elles ont bu et qu'elles sont fait violer, c'est forcément de leur faute, en fait. Donc il y a quelque chose. Il faut vraiment réfléchir aujourd'hui au rôle qu'a l'alcool dans nos relations et dans l'accélération des violences déjà en place.
Ouais, puis dans la manière dont on éduque nos enfants, et spécialement, moi je trouve, alors moi j'ai 3 enfants, dont un garçon, et je trouve que la question du consentement, j'en parlais avec une maîtresse de petite section, et elle voyait déjà la différence entre les garçons et les filles, et elle trouvait que elle n'est pas du tout, enfin moi j'habite dans un village, etc., que les parents étaient beaucoup plus permissifs avec leurs garçons qu'avec leurs filles, et qu'on autorisait beaucoup plus de choses aux garçons. Il a le droit de faire du bruit, il a le droit de, voilà, alors qu'on cadrait les petites filles beaucoup plus.
Mais toujours. Et,
ouais,
et en fait, d'ailleurs, la masculinité se construit à travers beaucoup l'alcool. En fait, il y a une idée de challenge.
Ouais.
On le voit avec le bizutage. Enfin, il y a quelque chose de très viril dans l'alcool. D'ailleurs, je pense que beaucoup de femmes de ma génération ont voulu s'approprier des terrains virils ou masculins à travers l'alcool, justement parce qu'on n'avait que des modèles comme ça, du type un peu cool, qui buvait sa bouteille, etc. Et que c'était une forme d'émancipation.
Complètement. Un peu d'intégration. Être intégré dans le groupe de mecs.
À la fois, c'est s'intégrer. À la fois, c'est prouver de sa force. À la fois, c'est s'émanciper. Enfin, on a mis beaucoup de choses derrière l'alcool, traditionnellement, socialement, mais aussi au niveau du marketing. Ça a été comme la clope, en fait. On a un peu vendu l'alcool comme libérateur. Et on n'a jamais parlé de son côté aliénant. Et donc, voilà, la masculinité a été très représentée à travers l'alcool. Et les rituels de virilité sont beaucoup instaurés là-dessus.
Dans les personnes qui te contactent ou qui t'envoient des messages ou des lettres, t'as autant d'hommes que de femmes ?
Oui, étonnamment. Enfin, ça dépend. En fait, j'ai eu beaucoup de femmes, évidemment, mais j'ai eu beaucoup d'hommes aussi, beaucoup de jeunes. Quand j'ai fait une rencontre, il y a une jeune fille qui est venue. Elle avait mon livre carrément qu'elle gardait sous son perfecto en soirée et tout. Il était super usé. Il y avait eu plein de trucs dessus. Alors, ça m'a émue aux larmes, quoi. Et je me suis dit, c'est bien parce que je pense que cette question de l'alcool, elle arrive avec toutes les questions justement de consentement, de bien-être, de care, de soin de l'autre, etc. Et je pense que voilà, c'est que le début et c'est intéressant qu'une jeune génération le prenne aussi en main, quoi.
Moi, je l'ai passé. Je trouve que c'est vraiment un livre qui se transmet. Enfin, qui se transmet, en tout cas, qui se passe. Moi, je l'ai déjà passé. Et même le fait de le laisser traîner à un endroit, rien que le titre, ça interroge. Et de voir ton visage et de dire « Attends, mais c'est quoi ? Ah, c'est marrant. » Enfin, tu vois, c'est hyper intéressant. Ça peut que interpeller chacun sur la relation qu'on a avec l'alcool ou sur des proches qu'on a. Enfin, voilà.
Bah c'est l'alcool, c'est, de toute façon, c'est une question sans fin parce que c'est un des rares produits qui mélange un peu tout. À la fois, il est source de plaisir extrême et à la fois, il peut être source vraiment de souffrance, quoi. Donc, c'est un produit très, très ambivalent.
T'en parles avec ta belle-fille, tu vois, ton livre, parce qu'elle arrive bientôt à l'âge de l'adolescence.
Alors, ma belle-fille, on est sur d'autres sujets encore. En fait, il y a plein de sujets à l'adolescence, je crois. Mais oui, ça en fera partie. Déjà, je pense que c'est intéressant qu'elle voit que nous, on ne boit pas. Elle sait qu'on ne boit pas. Ouais. Elle voit qu'on boit des bières sans alcool. Donc, elle a compris. Elle voit mon livre, même si elle est interdite de le lire pour le moment. C'est une conversation qu'on a eue, qu'on aura. On ne lui dit pas, c'est mal, ne bois pas. Parce que, encore une fois, il ne faut pas passer par l'interdit, je pense. C'est important. Elle voit déjà que notre mode de vie est plutôt serein et calme, sans alcool. Et je pense que c'est appréciable pour elle. Mais ça, évidemment, ça se présentera. C'est quelqu'un qui est très modéré dans tout, mais ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas eu cette conversation encore. Dans 2 ans, il y aura les booms et là, ça commencera.
Avant de parler de féminin, alors c'est la petite question, c'est pas la question people, mais en faisant mes recherches, j'ai vu que tu étais passée dans Quotidien, donc l'émission qui passe sur TMC. Et le fait de passer dans une émission comme ça, est-ce que tu vois des retours encore plus de personnes qui te contactent, etc., qui t'ont contacté suite, t'es passée dans le quotidien pour Sans Alcool.
Oui, je suis passée à pas mal d'émissions télé d'ailleurs, pour Sans Alcool et pour Quotidien aussi. Oui, c'est vrai que Quotidien, ça a été un boom. Je pense que le passage télé très médiatique, forcément, on a vu une grimpée de ventes de livres. Mais c'était intéressant parce qu'aussi par Quotidien, on touchait un autre public. Aussi. En fait, ce qui était bien,
jeune,
c'est que...
Il y a un public jeune, quotidien.
Ouais, puis
parisien,
plus,
non
plus large, en fait, que même Paris, je pense. Il y a énormément d'auditeurs. Et puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, quelque part, ce sujet, je l'ai abordé sous plein d'angles différents. Sous l'angle de la contre-culture, puisqu'il y a un historique de la contre-culture, du punk, straight edge, etc., du militantisme avec l'alcool. Je l'ai, avec des podcasts plus militants, je l'ai abordé sous la question de la sobriété joyeuse, la question du féminisme, la question du consentement, la question en fait, c'est là où c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est un sujet qui touche énormément de choses.
Oui.
Donc j'ai vraiment fait le tour, je crois, de tout ce qu'il implique en fait socialement, et c'est énorme. Donc c'était assez passionnant parce que même moi, ça m'a fait réfléchir à un nombre de choses. L'addiction et la sobriété sont devenus des termes intéressants, même en termes de prisme philosophique, en fait. Évidemment, après, il y a eu toute cette question de sobriété qui a été rattrapée par le gouvernement, mais observer le monde à travers l'addiction. En fait, c'est intéressant parce que moi, je suis une addict à plein de choses. Ouais. Et quelque part, j'ai vu les travers de toutes les choses, en fait.
T'es addict à quoi,
à travers ça, j'ai une addiction aux fringues à une époque. Ouais. J'ai une addiction à la clope. Ouais. J'ai une addiction à l'amour.
Ouais.
Et ça m'a fait voir jusqu'où on pouvait aller d'extrême. Ça m'a posé des questions sur le néolibéralisme, le capitalisme, le profit. Enfin, en fait, quelque part, c'est des super lunettes, un peu comme le féminisme, en fait, l'addiction. Parce que, ça vous montre, ça vous questionne sur la consommation. Et donc, à partir de là, ça a nourri ma pensée, en fait, intellectuelle. Et c'est ça qui était fascinant, c'est que c'était que le début, en fait, ce livre.
Tout ce que tu viens de dire à l'instant, ça s'est confirmé avec ce que tu as écrit dans Féminin.
Oui, c'est quelque part, ils se répondent un peu.
Ah mais ouais, complètement.
Parce que qui dit réflexion sur la consommation, dit évidemment réflexion sur le capitalisme. Ça vous invite à voir énormément de choses sous ces aspects les plus durs.
Alors, comment tu as choisi le thème, l'univers des magazines féminins? Tu as fini Sans Alcool, Sans Alcool sort, je ne sais pas, quelques mois plus tard, Féminin, il est sorti en septembre dernier, c'est ça?
Ouais. En fait, j'ai mis un an pour l'écrire. Enfin, il est sorti 2 ans après.
D'accord.
Donc, assez rapidement. J'avais envie de raconter les dessous, un peu justement, de certains milieux qui nous rendent accros de la même façon. En fait, c'est un peu le même procédé que Sans Alcool. C'est-à-dire que la mode, l'industrie du glamour et des cosmétiques certains magazines nous rendent accros à une certaine image de la femme qui passe par la possession et le consumérisme, en fait. Et pour avoir travaillé dans des journaux, je m'en suis rendu compte et ça m'a fait souffrir. Et de la même façon que l'alcool m'a fait souffrir, j'ai eu besoin d'en parler pour que les jeunes filles ne reproduisent pas forcément les mêmes erreurs. Voilà.
C'est hyper bien aussi, Féminin, je l'ai dévoré. Est-ce que, parce que je sais que en faisant mes recherches, etc., tu t'insistes bien en disant que c'est un roman, en fait, que tu cibles personne, que c'est pas un ouvrage autobiographique.
Non, c'est une autofiction, un roman d'autofiction, c'est-à-dire que ça part d'expériences observées, puisque j'ai travaillé dans un féminin, mais Francky n'est pas moi, c'est une autofiction.
Je repense à cet extrait qui m'avait beaucoup marqué, justement quand t'expliques que Francky devient un peu addict, justement, à ce milieu qui à la fois te chouchoute et en même temps, en tout cas, elle, dans son ressenti, l'appauvrit, parce que ça va complètement à l'opposé de ses valeurs, même si elle ne se rend pas compte au début. Et tu donnes cet exemple où... elle habite à Belleville et tu as une énorme berline qui vient la chercher pour les défilés. Et elle se retrouve vite agacée à cause des embouteillages et elle se rend compte un peu de ça en fait. Tu as vraiment une espèce de dichotomie entre la manière dont elle réagit, cette espèce d'agacement permanent, de stress, de papier à rendre, de montrer, de supporter les différentes hiérarchies du journal et ce côté avec ses copains en dehors du journal, ses valeurs à elle. Et en fait, ça tient. Et puis en fait, il y a un moment où tu... C'est pas qu'elle explose en plein vol, parce qu'il y a aussi la relation avec son rédac en chef et tout, mais ça tient plus, quoi.
Non, mais en fait, je pense que c'est un peu propre à notre époque. C'est-à-dire qu'en tout cas, ma génération, on est rentrés dans le système un peu sans se poser de questions. Je pense qu'on était un peu bon élève, même si on était de gauche, qu'on identifiait qu'il y avait des problématiques. En fait, on y allait, quoi, en fait. Et je pense que c'est le cas de Francky, c'est qu'elle rentre dans cet univers. À la base, elle a jamais écrit pour la mode, mais elle se dit, bon, c'est de la création, pourquoi pas. Et elle ne comprend pas, en fait, que ce sont des milieux qui, en fait, jouent beaucoup sur une course à la tendance, à l'apparence, qui vous font croire qu'en fait, tout ce que vous êtes, votre statut, votre identité n'est liée qu'à en fait la possession, l'apparence, la consommation, et que en fait c'est des univers qui broient, puisque en fait on n'arrive jamais à l'attraper cette foutue tendance ou ce fameux idéal capitaliste. Et donc on voit que Francky est très partagée, c'est-à-dire qu'à la fois elle a des valeurs de gauche, à la fois elle a envie de changer les choses, à la fois elle est quand même attirée par ce succès capitaliste que tout le monde vend. Et par cette image qu'il faudrait avoir. Et je pense qu'à un moment donné, ça se fissure en elle, que cette fragilité fait que ce monde la mange toute crue, en fait. Et donc, j'avais envie de raconter cette espèce d'ambivalence actuelle où à la fois, on a envie de changer les choses, et à la fois, notre système néolibéral nous ramène toujours un peu du mauvais côté, quoi. Et essaie de nous draguer comme ça, nous attirer vers encore une fois, un rythme aussi capitaliste, une consommation, quelque chose de très frénétique et en fait de très toxique. Par exemple, je pense que on est très aliéné en fait à cette image de la femme qui passe par la possession, l'apparence, etc. Et ça fait ceux qui en tirent profit, ce sont les marques en fait. Et donc les magazines, eux, aident les marques à faire ça. Et en fait, ça fait souffrir beaucoup de femmes, ça crée beaucoup de problèmes de santé mentale. Et je trouve que comme la mode a beaucoup de pouvoir, on n'en parle jamais. Et donc j'avais envie d'en parler parce qu'à force de se taire, j'ai vu beaucoup de jeunes filles rentrer un peu dans la même matrice que Francky, mon personnage, et ça m'a terrifiée, quoi. Voilà, c'était une façon de dire ce que vous êtes en tant que femme, qui vous êtes, ça n'a rien à voir avec ce que vendent les marques, en fait. Les marques, elles sont là pour faire du super profit, elles ne sont pas là pour vous émanciper, en fait. Il faut vraiment être clair là-dessus parce qu'on a commencé à gober que c'était le cas, en fait. On a commencé à se dire que pour être une femme libre, émancipée, belle, géniale, incroyable, ça passait forcément par notre façon de nous habiller, par notre image, et ce n'est pas le cas. En fait. Et le vêtement peut être émancipateur, il peut être politique, mais ça n'a rien à voir avec les industries qui, elles, nous poussent à acheter toujours plus, à être différentes de qui on est. Voilà, il faut décorréler de tout ça. Et c'était important de le faire pour moi.
Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est quand tu racontes dans ton roman, il y a quand même une forme de sexisme qui est quand même larvée dans les rédactions. Tu dis dans un article où tu es interviewée, c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée. Ce qui est certain, c'est que des figures masculines de la presse ayant des comportements toxiques dirigent aujourd'hui des équipes de femmes. Il y a toujours aujourd'hui beaucoup de sexisme larvé dans les rédactions. Les gens, là j'adore cette punchline, les gens sont prétendument de gauche, font des sujets sur la déconstruction, mais en creux, dès qu'ils sont un peu gênés dans leurs intérêts, il n'y a plus personne.
Ben non, c'est ça en fait. Mais je pense que l'arrivée de toutes ces problématiques climatiques qui sont vraiment, bon, qui sont là depuis des années, hein, mais qui ont vraiment ressurgi, et des problématiques féministes, etc., ont mis les gens dans une espèce d'impasse, puisque en fait aujourd'hui les industries de la mode, glamour, du cosmétique, comme les magazines, ont un intérêt, c'est de vendre. Et donc vendre, ça ne veut pas dire soutenir. Enfin, en fait, c'est indissociable en fait. Je ne sais pas comment dire. Et donc ça a mis beaucoup de gens face à des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait par exemple? Est-ce qu'on continue à soutenir des marques comme Dior qui mettent des t-shirts féministes, mais sans savoir si elles traitent bien leurs travailleuses par exemple? Vous voyez. Et donc en fait, ça a créé une sorte de schizophrénie même dans les journaux où à la fois on faisait des grands sujets sur l'émancipation féminine, etc. Presque l'anticapitalisme. Et derrière, il y avait un supplément sur les crèmes, en fait. Et donc, je pense qu'il y a aujourd'hui une problématique qui est, est-ce qu'on reste dans le système pour maintenir nos intérêts? Ou est-ce que vraiment on touche à la vérité? Et en ces cas-là, on analyse tout, mais on risque financièrement, en fait. Et en fait, je pense que peu de gens sont prêts à faire la deuxième option. La nouvelle génération, oui, parce qu'elle arrive fauchée et qu'elle sait qu'elle n'a pas d'avenir. Notre génération est encore très entretenue par ce succès capitaliste et par la peur de perdre en privilèges et en intérêts. Et en fait, du coup, elle ménève la chèvre et le chou. Mais on voit bien les limites de tout ça, en fait. Aujourd'hui, si on veut que le changement il arrive, il faut tout restructurer, il faut tout réfléchir et il faut risquer de perdre en intérêt. Il faut risquer de refuser de bosser avec certaines marques. Il faut critiquer LVMH. Il faut faire des choses qui, en fait, oui, nous rapportent moins, mais rapportent plus en vérité et en authenticité, en fait. Et donc, on est entre deux choix. Et je pense que je ne juge personne, parce que je ne dis pas que c'est facile. Mais je pense qu'on est, on est aujourd'hui dans deux choix qui sont compliqués. Puisque soit on reste du côté du capitalisme et du super profit, mais on est dans le déni. Et je ne pense pas que ça rend plus heureux. Pour peu qu'on ait des valeurs de gauche, j'entends. Soit on fait le choix de le critiquer, mais effectivement, on prend des risques et c'est plus compliqué, en fait.
Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué. C'est... Donc, moi, je te suis sur Instagram et tu as écrit un post il y a quelques mois où justement, tu parles de l'écart de réception entre tes deux livres. Alors, je te cite, tu dis « Mon roman féminin est sorti le 14 septembre. Un mois avant, plusieurs personnes de chez Flammarion, etc. l'ont lu. Des avocats l'ont lu. Les échos étaient dithyrambiques. Toi, t'en étais émue. L'avocat a parlé d'ouvrages d'intérêt général puisqu'il décryptait la violence d'entreprise envers les femmes. L'écriture de ce livre a été dure pour toi, c'est ce que tu racontes. Tu avais hâte que le livre sorte, que la promotion démarre. Tu dis, le livre est sorti, il a été très demandé par des journalistes presse, radio, télé. Mon lancement en librairie a été un succès, cela commençait bien, et puis un silence total. Tu dis, j'ai reçu nombre de messages privés de soutien, soulignant la qualité littéraire du livre. Ouvrez les guillemets, merci pour cette brèche dans un océan d'impunité, bravo. Tu reçois en tout cas plein de messages, mais aucun papier, aucune invitation. Et là, je te cite aussi, quand mon attachée de presse relançait, elle avait toujours la même réponse. Le livre est bien, mais il est touchy.
Mm-hmm. Ouais. Bah oui, ça a été dur. Ouais. Ça a été dur et pourtant, le livre a quand même vendu.
Mais oui, parce que tu as eu énormément de... Oui,
Parce qu'il y a beaucoup de femmes... Dans différents médias qui ont trouvé d'autres moyens d'en parler à travers des newsletters, parce qu'il y a des libraires qui m'ont soutenue, parce qu'il y a eu des podcasts énormément. En fait, cette promotion, elle était presque mieux pour moi que la première, parce que déjà, j'ai rencontré des femmes incroyables qui, justement, prenaient le risque de parler des choses qui fâchent. Et cette sororité m'a énormément touchée, en fait. Si vous voulez, ce qui est assez étrange et génial en même temps, c'est que cette promotion a été exactement à l'image de ce que je raconte dans le livre.
Oui.
Donc, en fait, on ne pouvait pas, quelque part, de meilleure preuve de ce que je raconte. C'est-à-dire que je raconte qu'il y a un système de pouvoir qui mélange capitalisme et patriarcat, puisque les deux font la monnaie d'une même pièce, puisque, en fait, ce système-là a été pensé par des hommes et continue à être régi par des hommes, qui broient les femmes, en fait. Voilà. Puisque, une fois qu'on dérange un peu trop... Alors, ils sont d'accord en façade de parler de féminisme, etc. Mais dès que ça dérange un peu leurs intérêts, dès qu'on remet en question les vraies structures qui créent les problématiques, et là, en fait, il n'y a plus personne. Et donc, voilà, c'est ce que je raconte dans le livre, c'est ce qu'a montré la promotion. Et pourtant, sans s'attaquer à ces structures, on n'arrivera à rien, en fait. Donc oui, c'est un risque. Oui, c'est compliqué. Mais moi, je préfère retrouver mon intégrité et dire les choses qui fâchent plutôt que de continuer à être dans un déni, en fait.
Et en fait, c'est le sujet des annonceurs qui est touchy. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que si tu n'avais pas bossé dans un magazine avant, tu penses qu'ils auraient été moins frileux ?
Je sais. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, il y a un type qui s'est reconnu dans le rôle de Noé, qui est donc, pour expliquer, Noé, en fait, est un homme qui arrive à la tête de la rédaction au travail Franky et qui va empirer les choses, puisque, en fait, déjà, personne ne trouve bizarre que ce soit un homme à la tête de magazine féminin, mais c'est un vrai problème pour moi. Et que, en fait, ce type est là, surtout, en fait, pour caresser, justement, les annonceurs. Puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup, ces postes à responsabilité demandent beaucoup de liens, justement, avec les grandes industries, en fait. Et en fait, ce type arrive et il se trouve que quelqu'un s'est reconnu dans ce personnage et qu'il a mis de la pression à différents endroits, voilà, en me traitant de menteuse, etc. Et que cette personne est passée dans plein de groupes de médias en France, voire tous, en fait.
Pour dire ça ?
Non, il est passé, il a travaillé, en fait.
Comme Noé.
Voilà. Donc, évidemment, si c'est lui, mais c'est encore une fois une fiction, ça emmerde tous les groupes, puisqu'ils l'ont embauché approcher. Voilà. Donc il y a eu ça, et puis il y a eu aussi le fait que effectivement je lance l'alerte sur le rapport un peu trop exigu entre un peu trop étroit, ténu entre les journalistes et le luxe. Et je pense que ça a été ça le vrai tabou en fait. C'est dommage parce qu'en plus moi mon livre il situe avant le MeToo et avant qu'on questionne ces problématiques. Donc j'attendais un peu une suite en me disant comment ça s'est reconfiguré. Et je pense que voilà le système s'est senti attaqué alors que je posais des questions parce que aujourd'hui on est bien d'accord, on est dans un système capitaliste de toute façon et c'est très dur de se financer avec de l'argent et de l'argent propre entre guillemets. Ouais. Donc moi je jette la pierre à personne. Je dis juste qu'il est vraiment temps de mettre cette question sur la table puisque quand même, voilà, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, par exemple, un journal, en fait, en gros, il vit maintenant plus vraiment de son lectorat, mais il vit parce que des marques achètent des encarts publicitaires.
Oui, complètement. Comme ce que j'ai dit en intro, qui était complètement hallucinant, mais qui est...
Qui est vrai. Et donc, bon, voilà, je comprends que le journal doive continuer à subsister. Mmh. Mais le problème, c'est que ces marques ont un pouvoir de plus en plus croissant sur le contenu, puisqu'elles savent qu'elles peuvent faire un petit peu pression, etc. Et donc, on peut évidemment questionner aujourd'hui la liberté d'expression, en fait, tout simplement. Oui. Quel est le pouvoir de ces marques qui financent aujourd'hui tous les médias, mais pas que les magazines, les podcasts, quel est leur vrai pouvoir? À quel moment elles interviennent dans la liberté d'expression des journalistes ou des podcasteurs ou des... C'est une vraie question, en fait.
Complètement.
Parce que du coup, ça donne un pouvoir croissant à des grands groupes industriels qui croisent. Et ça, c'est assez inquiétant, en fait. Parce que dans quelle mesure ils n'instrumentalisent pas, si vous voulez, les contenus des médias.
Dans un article pour Mademoiselle, donc, tu parles de l'indépendance qui n'est pas rémunérateur quand on est une femme féministe. D'ailleurs, tu parles un peu de toutes les personnes que tu connais, justement, et qui sont féministes, qui l'ouvrent. Et l'argent, en fait, ces grands groupes ne soutiennent pas les personnes. Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai un podcast, je ne gagne rien. Et qu'en gros, parfois, je me dis, mais est-ce qu'il faudrait que j'interviewe des mecs pour que des marques se disent, ah tiens, en fait, ça va, elle n'est pas trop féministe, tu vois? Tu penses que ça va évoluer comment, ça?
Je ne sais pas, en fait. C'est très problématique. C'est-à-dire que si vous voulez faire du féminisme washing, là, vous gagnez de l'argent. C'est-à-dire que si vous acceptez de bosser avec des grandes marques de luxe, mais juste pour faire du washing, en fait, et moi, ça ne m'intéresse pas, là, vous pouvez vous faire de l'argent. Mais quand vous refusez ça, c'est sûr que vous avez peu de financement, en fait. C'est pour ça, encore une fois, je jette la pierre sur personne, parce qu'on a tous besoin d'argent pour vivre. Ouais. Mais c'est vrai
On est dans un système, on a besoin d'argent pour vivre. Donc, de toute façon.
Mais c'est vrai qu'on est dans un argent, on a besoin d'argent pour vivre. Mais quel est notre degré, justement, c'est tout le thème du second livre, c'est comment préserver ses valeurs là-dedans, ouais. En fait. Quel degré de compromission on est prêt à faire? Quel degré d'engagement on a envie d'avoir? Moi, je n'ai pas résolu la question pour moi, parce que moi, j'ai deux enfants à charge. Ouais. J'ai besoin de vivre aussi. Donc, peut-être que si demain, je suis à la rue et fauchée et qu'une grande marque vient me voir, je ne sais pas ce que je dirais, ouais. En fait. Et c'est pour ça que je ne critique pas ça. Mais je me dis que, voilà, que c'est intéressant d'en parler et d'ouvrir la question, d'ouvrir la discussion sur le sujet, puisque souvent, ces marques font du washing et nous instrumentalisent pour mieux vendre des produits qui, elles, vont aliéner les femmes. Donc, vous voyez, c'est une question complexe, en fait. La réponse serait qu'on déconstruise complètement le système capitaliste et qu'on arrive à un autre système où on est tous le minima pour vivre et qu'on puisse vivre avec nos valeurs, mais ce n'est pas le cas. Donc, tant que l'économie et que le pouvoir politique ne fait rien, puisque pour moi, c'est une question politique, je pense qu'on est amené à être entre toutes ces contradictions, quoi.
Quand tu parles de l'indépendance, etc., ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur Insta que je trouvais hyper intéressant. Tu as eu un festival à Londres sur le podcast en général. Et je voyais un moment, tu avais une nana qui disait bon, à la base, le podcast, ce n'est pas un truc rémunérateur. Et dès que tu commences à avoir un peu d'argent, tu n'as plus de femmes. Enfin, tu as moins de femmes, quoi. En gros, les postes sont trustés par les mecs et tout. Enfin, je détaille pas assez, mais ça m'a fait penser à ça, tu vois. Ce côté, quand il n'y a pas d'argent, tu as plein de nanas. Et quand après, ça commence un peu à se structurer, là, tu as des hommes.
Bah, de toute façon, c'est pareil partout. En fait. Moi, je commence en cinéma, on voit bien que les gros budgets continuent à être offerts quand même aux hommes, principalement. Je crois que c'est Eva Longoria qui s'est prismée là-dessus. Et c'est bien parce qu'elle a fait un film et elle raconte qu'elle a qu'un shot avec un certain budget, alors que les hommes ont 22 millions et puis c'est parti. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que...
Oui, en gros, quand t'es une femme et que tu veux faire du ciné, tu peux pas te planter.
Ouais.
Oui, alors qu'en gros, quand t'es un mec, tu peux faire plein de bouses on te refilera un budget derrière.
Bah oui, mais c'est toujours pareil. De toute façon, tant qu'on aura en haut de nos têtes tous ces hommes qui décident pour nous, qui se filent des budgets entre eux, et qui estiment que, en fait, on est des voix un peu radicales et dissidentes dans leurs normes, sans se situer, sans poser la question de est-ce que c'est pas eux qui sont un peu radicaux, etc. En fait, on n'arrivera à rien, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai 40 ans, j'ai une expérience certaine dans les médias et mon engagement politique, il vient de cette expérience. Mais souvent, quand je suis à des entretiens avec des hommes, on essaye de me faire croire que c'est un peu une lubie de wokiste, de jeunette, etc. On me parle comme si j'avais 13 ans. C'est un peu une façon toujours d'évaluer nos luttes et de garder le pouvoir, en fait.
T'infantiliser, en fait.
Bien sûr. Ouais. Moi, je sais très bien pourquoi j'ai écrit ces livres. Après des années d'expérience devant des postes à responsabilité dans les médias, c'est parce que j'ai vu ce plafond de verre et qu'à un moment donné, j'avais plus la possibilité de continuer. Ou alors, ça voulait dire de devenir moi-même un requin et de manipuler tout le monde et d'être politique et de finalement faire ce que demande le pouvoir patriarcal et capitaliste. Et j'ai pas eu envie de ça. Et j'ai fait faire un pas de côté, c'est sûr que ça offre moins de pouvoir, mais qui a envie d'avoir de pouvoir dans cette société, quoi. En fait, le problème, c'est ça, c'est que en fait, moi, je préfère... Enfin, j'ai pas envie d'avoir du pouvoir dans une société qui maltraite, qui exploite, qui... si c'est être en haut de la pyramide, il faut faire ça pour être en haut de la pyramide, ça m'intéresse pas, en fait. Mais bon, ça veut dire qu'aussi, du coup, les femmes partent à un certain moment donné par rébellion, etc., ou par philosophie, et qu'on retrouve encore les mêmes qui...
Ouais, les plus précaires.
Qui tressent les hauteurs, quoi, en fait, et les budgets, donc voilà.
C'est quoi tes projets ?
J'écris un autre livre, dont je parle pas trop encore pour le moment. Et
un truc où tu mets les pieds dans le plat ?
Oui, voilà. En fait, au début, je me suis dit non, je vais écrire un roman un peu plus poétique et tout. Puis bon, en fait, ça me rattrape à chaque fois. Ouais. De toute façon, j'ai tapé sur l'alcool, sur le luxe. Je pense qu'en France, on peut pas. Enfin voilà, j'ai réussi à. Non, j'ai pas tapé. En plus, c'est plutôt des questionnements. Mais oui, c'est encore un questionnement qui mélange intime et politique. Enfin, en tout cas, voilà. Et je développe des projets de série. Voilà.
D'accord. Mm-mm. Merci Claire pour cette première partie. Merci.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de Genre de Fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de Genre de Fille, suivez-moi @Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.